mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est l'empathie.
Et il y en a pour toutes les sensibilités.
C'est quoi l'empathie?
L'empathie. Pour le grand Robert, l'empathie est la capacité de s'identifier à autrui et de ressentir ce qu'il ressent. Pour Weed le char, c'est le processus de copenser qui permet de réaliser un effet d'empathie grâce à des mécanismes d'identification et d'inférence. Pour Lebovici, l'empathie serait un processus affectif préverbal, comme l'empathie mère-bébé. Et pour Freud, l'empathie relève d'un ensemble énergico-économique où la relation à l'autre est envisagée dans le but de décharge énergétique. On se mettrait à la place de l'autre tout simplement pour faciliter cette démarche.
Ah, oh. L'écologie, c'est de l'empathie?
En quelque sorte, mais c'est aussi de la logique.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture, attention au départ!
C'est les allumeurs de réverbères.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par la minute Code du travail et convention collective et parlerons des congés d'adoption. Suivra la rubrique Environnement où nous partirons dans le jardin d'Anne-Laure qui nous parlera du lamier. Rubrique suivie par la lecture de la charte révolutionnaire des hommes libres de Henri Freinet, présente dans l'ouvrage La nuit finira, mémoire de résistant Alger 1944. Et pour clore l'émission, ce mois-ci, vous pourrez découvrir un conte de Franche-Comté intitulé « Le lac de Saint-Point » écrit par Jean de Frane et édité par les éditions Fernand Nathan en 1962. Vous écoutez les allumeurs de réverbères. À tous, chers auditeurs, recevez ce vœu. Force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Allez hop, c'est parti, bonne lumière à tous.
Recommençons sur de bonnes bases avec la minute Code du travail et convention collective. Le congé d'adoption. Le congé d'adoption est ouvert à tout salarié qui s'est vu confier un enfant, soit par le service d'aide sociale à l'enfance, soit par l'Agence française de l'adoption, soit par un organisme français autorisé pour l'adoption, soit par décision de l'autorité étrangère compétente à condition que l'enfant ait été autorisé à ce titre à entrer en France. À partir du 1er juillet 2021, la durée légale du congé d'adoption varie de 16 semaines à 22 semaines en fonction du nombre d'enfants adoptés, du nombre d'enfants déjà à charge avant adoption et de l'éventuelle répartition du congé entre les parents. Le congé débute à la date d'arrivée de l'enfant au foyer, cependant, il peut débuter plus tôt, dans la limite de 7 jours consécutifs précédant l'arrivée de l'enfant au foyer. Le salarié doit avertir l'employeur par tout dispositif permettant de garder la trace de l'information faite à l'employeur, par exemple courriel avec accusé de réception ou de lecture. Le salarié précise dans sa demande le motif de son absence et la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. L'employeur ne peut pas refuser le congé. Sauf disposition conventionnelle, aucun délai n'est imposé au salarié pour prévenir l'employeur. Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, le salarié bénéficie de la protection contre le licenciement. Pendant le congé d'adoption, tout parent adoptif a droit au versement d'indemnités journalières de repos s'il justifie d'au moins 10 mois d'immatriculation en tant qu'assuré social à la date d'arrivée de l'enfant au foyer. De plus, il doit respecter l'une des conditions suivantes: avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer ou avoir cotisé sur la base d'un salaire cumulé d'au moins 11 439,05 € au cours des 6 derniers mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer. L'indemnité journalière est due pendant la durée du congé d'adoption à la condition que le bénéficiaire cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. À la fin du congé d'adoption, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié bénéficie des mêmes augmentations que celles accordées pendant son absence aux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle. Le salarié peut également bénéficier d'un congé non rémunéré de 6 semaines maximum s'il se rend à l'étranger ou dans un DROMCOM pour adopter un enfant. Pour plus d'informations, rendez-vous à la section 3 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 de la première partie de la partie législative du Code du travail nommé congé d'adoption.
Bravo, le Code du travail, bravo!
C'est beau ça, maman, hein?
Oh oui, une belle avancée.
On appelle ça le progrès.
Et comme disait Monsieur Ambroise Croizat, le progrès est une création continue.
Eh ben, s'il y avait un petit peu plus de personnes comme ça et un peu moins de... Comme quoi ?
Fatigué,
fataliste.
Fabergé ?
Non !
Irréfléchi !
À bout de souffle !
Mal élevé !
Mal aimé !
Déjà mort !
Ne savent pas rêver !
Ils n'ont pas appris !
Les gens sont si moches que ça, maman ?
Il y a des moments plus durs. Des gens plus durs.
C'est quoi qu'on entend ?
Une bande son.
La rubrique environnement.
Les allumeurs de réverbères.
Le lamier. Le lamier, famille des lamiacées.
Le lamier, c'est une plante, je pense, que beaucoup de gens ont déjà vue dans leur vie. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils la connaissent. Si on devait la décrire, c'est compliqué parce qu'il y a des tas de types de lamier. Ça peut évoquer, au niveau en tout cas de la forme de la feuille, ça peut évoquer l'ortie. Sauf qu'il n'y a pas de petits picous qui sont désagréables pour notre derme. Donc bon, je dirais que ça ressemble à l'ortie. D'ailleurs, j'ai longtemps cru que ortie et lamier étaient de la même famille, ce qui est faux. Parce que la ortie, c'est les urticacées, ce qui est urticant, bien sûr. Le lamier, c'est pas son cas, il n'est pas du tout urticant. Dans notre jardin, on a du lamier jaune et aussi du lamier violet qu'on appelle en général le lamier pourpre. Avec le lamier pourpre, si on souhaite se nourrir, le lamier pourpre peut être top. On récolte les feuilles pour faire par exemple un pesto. On rajoute de l'ail, des pignons de pin, ça peut faire un très bon pesto sympa. On peut aussi en rajouter quelques feuilles dans une salade. Maintenant, une salade seulement de lamier, ce serait pas suffisamment goûtu. Donc, pour ceux qui veulent faire des salades sauvages, le tout, c'est d'avoir plusieurs types de feuilles. Ensuite, et c'est surtout pour ça que le lamier m'intéresse là tout de suite, c'est que c'est une plante qui pousse vite. En hiver, on la voit pas du tout. Hein. Comme tout à l'heure, on parlait de plantes qui, comme la consoude, qu'on ne voit pas du tout l'hiver et qui reviennent au printemps, le lamier c'est pareil. Il réapparaît comme ça au printemps et il va venir vraiment être une parfaite plante qu'on va appeler une plante couvre-sol. Pourquoi ? Alors c'est quoi le couvre-sol et pourquoi c'est important d'avoir du couvre-sol ? Traditionnellement, depuis plusieurs années, quand on construit un parterre, souvent, on va voir des plantes mises indépendamment comme ça dans un parterre et autour de la plante une grosse zone de terre. Ça, ça peut être gênant parce que quand la terre est à nu, juste ça favorise la sécheresse. Alors, ce qu'on appelle une terre pas à nu, il y a deux options. Soit on met des plantes couvre-sol, je reviendrai dessus après, soit on va mettre du broyat, tout simplement pour ne pas laisser la terre à nu. On peut mettre du broyat végétal, on peut même mettre aussi, pourquoi pas, des ardoises, n'importe quoi qui va venir protéger la terre. Si la terre est protégée, c'est-à-dire en gros qu'elle ne se prend pas le cagnard sur la tronche, hein, concrètement, eh bien, si la terre est protégée, ça va favoriser une terre plus humide. Donc là, tout le monde comprendra qu'une terre plus humide, bien sûr, les racines des plantes vont mieux kiffer. Et au-delà de ça, l'intérêt d'une terre plus humide, c'est que ça va favoriser quelque chose qui est plus profondément dans le sol, qui est indispensable à la bonne survie des végétaux, c'est la mycorhize. La mycorhize, c'est tout simplement la symbiose qu'on va avoir entre les champignons du sol et les végétaux qui sont au-dessus. Et ça nous... Je crois que le coq est content qu'on parle de ça. Donc voilà, ne jamais laisser la terre à nu. Le lamier est sympa en couvre-sol parce qu'il est floral, donc déjà c'est plutôt joli. Là encore, il fait des petites fleurs qui vont venir attirer les insectes. Donc là encore, toujours penser hein, à nourrir les insectes, c'est indispensable. Donc n'arrachez pas vos pissenlits ou ce que vous considérez être des mauvaises herbes. D'ailleurs, les mauvaises herbes n'existent pas. Hein. Dans le monde végétal, on appelle ça des adventices parce qu'elles adviennent. Et je trouve ça génial d'ailleurs de le voir comme ça. Elles sont là, elles adviennent. Elles sont indispensables en fait à la vie du sol. Que dire de plus sur le lamier ? Voilà, il viendra égayer vos parterres pour tout simplement ne pas avoir de zone de terre et en plus nourrir les insectes. Et là, je crois que tout est dit sur le lamier.
Allumeurs de réverbères.
Les discours politiques!
Mais tu vas arrêter de crier, s'il te plaît.
Bah, tout le monde crie, maman, maintenant.
Il a pas tort.
Il a même raison.
Bah oui, c'est la mode.
C'est la mode.
Mais non, qu'est-ce que vous racontez? Il y a encore des gens qui savent parler normalement.
Où?
Venez voir, ils sont par là. On les appelle les constructeurs, les terrestres, les bons vivants.
Idéalistes, réalistes, positifs.
Aventuriers?
Des résistants, avec un grand R.
Oh !
Et qu'est-ce qu'ils font ?
Ils s'occupent des autres.
Oh !
Allez, c'est parti, mes petits loups. C'est la pause campagne. On prend un grand bol d'air frais.
Les allumeurs de réverbères.
Un, nous voulons... un régime démocratique basé sur le respect des libertés telles qu'elles sont définies dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous voulons que l'autorité et la durée du gouvernement lui permettent de remplir la mission que lui aura confiée la nation sous le contrôle de ses élus. Nous voulons que la volonté de la nation s'exprime par le suffrage universel des hommes et des femmes. Nous voulons la séparation des pouvoirs, seule et réelle garantie contre l'arbitraire et la dictature. Qu'aucune coalition d'intérêts ne puisse influencer la libre détermination des élus de la nation. Que les partis politiques aient un contenu idéologique réel, justifiant par cela même leur existence. Deux, nous voulons... accélérer l'évolution technique et la mettre au service de tous les hommes. Que sur les ruines du capitalisme, la production et la distribution soient mises au service de la consommation. Que la monnaie et le crédit soient mis au service de l'économie et les finances au service de la politique nationale. Nous voulons que le profit ne soit que le produit du travail. Que la démocratie économique devienne une réalité, comme la démocratie politique. Que cette démocratie économique permette l'engagement, la participation et la responsabilité de l'individu dans la vie économique du pays. Trois, nous voulons, afin de permettre un renouvellement naturel et constant des élites, que tous les citoyens aient des chances égales au départ dans la vie. La disparition de l'esprit de classe, en particulier par leur mélange dès le plus jeune âge dans les établissements de l'enseignement. Nous voulons la liberté d'association professionnelle, que le travail soit à la fois un devoir et un droit. Nous voulons que la communauté assure l'existence matérielle et morale des faibles. 4. Nous voulons l'équilibre des cultures de l'esprit et du corps, que l'éducation et l'instruction soient désormais inséparables et accessibles à tous, sans charge supplémentaire pour la famille, que l'éducation développe la personnalité et le caractère, cependant que l'instruction formera les intelligences. Nous voulons détruire l'esprit bourgeois qui se caractérise par la peur, l'égoïsme et le conformisme et l'ordre à tout prix. Nous voulons développer en contrepartie le goût du risque, de la générosité et ouvrir les esprits au sens de l'évolution. Nous voulons l'exercice de la liberté dans la plénitude des responsabilités. Nous voulons développer un individualisme rigoureux au service de la communauté. Nous voulons que le mensonge dans la vie publique soit sanctionné comme un délit. 5. Nous voulons que tout homme ait droit aux soins médicaux gratuits, que toutes les causes de dégénérescence soient combattues, et en particulier l'alcoolisme. Nous voulons que le fléau de la dénatalité française soit combattu par des mesures immédiates et un programme à longue échéance. Nous voulons que la famille ne soit plus une charge, que la famille soit la cellule de base de la société où s'épanouira la personnalité des enfants. Nous voulons que les parents soient préparés à leur rôle et à leur responsabilité. 6. Nous voulons une politique coloniale qui élève l'indigène selon ses propres traditions, que la métropole concourt au développement politique et économique de la colonie. Nous voulons le resserrement des liens de toute nature et en particulier des liens culturels entre la métropole et les colonies. 7. Nous voulons accélérer la marche du monde vers l'unité, que l'orgueil ou l'égoïsme éventuel des gouvernements, les principes d'une souveraineté souvent illusoire, n'entravent pas cette marche à l'unité. Nous voulons que la France, après avoir reconquis sa souveraineté, se déclare prête à la limiter pour entrer dans une organisation internationale. Nous voulons que le génie de la France rayonne dans le monde.
La Charte révolutionnaire des hommes libres, Alger, 1944, de Henri Freinet. La nuit finira, édition Robert Laffont, 1971, édition Michalon, 2006.
Overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
Les allumeurs de réverbères.
Le lac de Saint-Point. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, au bord du Doubs, en lisière d'une profonde forêt de sapins, une grande cité que l'on appelait Dame Vautier. Je sais bien, les savants doutent de son existence, et certains prétendent qu'au VIe siècle après Jésus-Christ, il ne pouvait exister une grande ville en pleine montagne, dans des lieux sauvages et à peine connus. Ils n'ont peut-être pas tort, mais la légende affirme que Dame Vautier était à cette époque lointaine une ville puissante, célèbre par la beauté de son site et la prodigieuse richesse de ses habitants. Croyons-en la légende, elle a ses raisons que l'histoire ne connaît pas. Il est vrai que Dame Vautier n'était pas une cité ordinaire. Les habitants possédaient des champs où le blé poussait à plaisir, des vergers où les fruits étaient plus lourds et plus savoureux que partout ailleurs. Ils avaient en abondance bétail, gibier et poissons fins. Dans leurs somptueuses demeures brillaient l'or et l'argent. Dans leurs jardins, les perles étaient aussi nombreuses que les gouttes de rosée. Les rubis et les saphirs scintillaient au creux des fleurs. La nature s'était montrée là d'une folle prodigalité. Heureux habitants de cette ville opulente. Ils vivaient dans une oisiveté dorée et passaient le meilleur de leur temps dans les festins et les fêtes. Ils aimaient à manger mollement étendus sur de larges sofas et songeaient moins à se nourrir qu'à se gaver de mets raffinés ou étranges. Ils se paraient d'étoffes soyeuses et de bijoux étincelants. Ils étaient paresseux, gourmands, bouffis de vanité et d'orgueil. Le luxe était pour eux un besoin, et le plaisir, souvent pimenté de débauche, une habitude. Dame Vautier n'avait rien à envier à l'antique Babylone pour la mollesse et le désordre, l'avilissement des caractères et la corruption des mœurs. Dans cette ville dissolue, les hommes et les femmes étaient devenus durs, violents, cruels. Ils maltraitaient leurs esclaves, ils se méfiaient des voyageurs, ils chassaient sans pitié ceux qui frappaient à leurs portes, pèlerins, mendiants ou pauvres hères. À plusieurs reprises, on avait vu sur la grande place un vieillard à l'air mystérieux et aux yeux fixes. On le regardait avec une curiosité mêlée de mépris. Il ne s'en souciait pas, continuait sa marche au milieu des rires et des insultes, criant à tous ceux qu'il voyait « Gens de Dame Vautier, enfants égarés, changez de vie pendant qu'il en est encore temps, renoncez à ce luxe qui pourrit les âmes, revenez à Dieu et il ne détournera pas ses regards de vous, soyez simples, pieux et bons, sinon la colère du ciel s'abattra sur vous et vous retomberez au néant. » Mais personne ne tenait compte de ses avertissements. On le chassait de la ville, mais il y revenait, inlassable, obstiné. Puis, il n'y revint plus. Dame Vautier, plus encore qu'auparavant, s'abandonna au pire désordre. C'était un jour d'hiver, froid et triste, la neige tombait en bourrasque et la campagne dormait sous un grand manteau blanc. Le ciel était gris, la bise âpre et piquante. Une femme franchit les portes de la cité et les chiens aboyèrent contre elle. Elle avait l'air d'une pauvresse, marchait en haillons et pieds nus, toute courbée dans la neige et le vent. Dans ses bras, elle portait un tout jeune enfant, entouré d'une mauvaise toile défraîchie qui ne pouvait suffire à le garantir du froid. Le petit grelottait, il pleurait et criait, il avait le visage bleui, cinglé par les flocons. La femme avait un air malheureux et crispé, mais elle poussa un soupir de soulagement quand elle put s'abriter sous le porche d'une maison. « Maintenant, se disait-elle, je vais trouver un abri. Ma route a été longue et dure, mon fils a gémi sous le vent glacial de l'hiver, mais ici nous pourrons prendre un peu de repos. Dieu soit loué, nous ne sommes plus par les chemins couverts de neige. » Et elle frappa à la porte rehaussée de panneaux sculptés. Un serviteur vint ouvrir et regarda d'un air dédaigneux. La mère montra son enfant et dit d'une voix suppliante, « Ayez pitié de mon enfant, à demi mort de froid et de faim. Donnez-nous un peu de pain et permettez-nous de nous réchauffer un moment à votre foyer. Dieu un jour vous le rendra. » Mais l'homme, irrité d'avoir été dérangé, répondit d'un ton sec. « Mon maître est Polius, le meilleur joueur de flûte de cette ville, et il n'aime pas les mendiants. Partez, et n'espérez pas nous attendrir. Partez, ou il vous en cuira. » Il ferma la porte. Et la femme, désolée par ce mauvais accueil, alla frapper à la maison voisine. Elle montra à nouveau son enfant et renouvela son humble demande. Un homme aux traits lourds et vulgaires lui déclara brutalement « Mon maître est Sabinius, le premier magistrat de la cité, et il n'aime pas les mendiants. Il est en train de dîner et il a horreur des importuns. Passez votre chemin. » Elle dut continuer sa route. Elle frappa sans se lasser à la porte des riches maisons bien chaudes d'où lui parvenaient les odeurs des festins et l'écho des rires et des chants. Partout, elle fut repoussée. Il ne restait plus qu'une belle demeure sur la place où elle ne se fût pas adressée. elle résolut de tenter cette dernière chance. Une vieille femme, toute ridée, ouvrit non pas la porte, mais seulement la petite fenêtre découpée dans celle-ci, et que l'on appelle si bien un Judas. Elle regarda l'enfant en pleurs sans la moindre émotion, écouta les supplications de la mère, puis elle dit d'une voix qui n'admettait pas de réplique « Mon maître est Aurelius, le prêtre, et il n'aime pas les mendiants. Il dit que leur pauvreté est une punition de leur péché. N'attendez rien de nous. Aidez-vous, le ciel vous aidera. » Et sur ces mots, elle referma le Judas. Ainsi, la malheureuse mère avait trouvé partout la même dureté de cœur et essuyé le même refus. On l'avait chassée, sans pitié, et la vue de son enfant affamé et transi n'avait pas touché ces êtres endurcis et cruels. La nuit était proche, elle se glissait insensiblement avec son voile d'ombre et de froid, la nuit si dure pour les faibles. « Tout est fini, » pensait la femme. « Le petit est à bout de force, et je suis moi-même trop abattue pour résister à la nuit glaciale. Je suis fatiguée, affaiblie, mais plus encore désespérée par la cruauté du monde. Je suis prête à mourir, ensevelie dans un linceul de neige. Mais je vous en supplie, mon Dieu, sauvez mon enfant, donnez-lui le droit de vivre et de vous aimer. Mon Dieu, sauvez-le. » Et elle éclata en sanglots. Soudain, elle vit venir à elle un vieillard très bon et très doux, qui était un moine de Condat, celui que nous connaissons sous le nom de Saint-Point. « Ma sœur, fit-il, pourquoi pleurez-vous ? Mon enfant a froid et faim, je suis lasse et les gens de cette ville ont le cœur plus dur que la pierre. Vous êtes malheureuse, mais ne perdez pas courage. Je suis pauvre, très pauvre, mais je vous aiderai de mon mieux. Venez. » Le vieillard habitait dans la forêt une petite cabane faite de branchages, il y fit entrer la femme et l'enfant et alluma un bon feu de brindilles qui les réchauffa. Puis il apporta un morceau de pain d'orge et un bol de caillé. L'enfant se mit à sourire et le vieillard le regarda avec attendrissement. « Vous nous avez sauvés, » dit la femme, « comment pourrais-je jamais vous remercier ?»« Ne songez pas à cela, ma sœur, et reposez-vous, vous en avez grand besoin. Ici, vous serez bien. » Minuit. Dame Vautier veille et les lumières font aux fenêtres 1000 petits points brillants. Le repas s'achève à peine et l'on apporte encore des boissons fortes. Les convives sont bruyants, ils crient, ils chantent, ils dansent. La fête quotidienne bat son plein, plaisir, gaieté, insouciance. Tout à coup, le tonnerre gronde, plus longtemps et plus violent qu'au jour des pires orages. Le fracas résonne sinistrement dans la nuit. La terre tremble comme si les rochers étaient prêts à s'écrouler. Les sapins s'abattent avec un craquement sec. Les chevaux piaffent et hennissent, cherchant à rompre leur longe. Les chiens, la gueule dressée vers le ciel, hurlent à la mort. Les convives restent immobiles et silencieux. Ils écoutent et la peur se lit sur quelques visages. Le tonnerre s'est tu. Il n'y a plus qu'un bruissement sourd et continu, celui de l'eau qui coule et tombe en fraîche cascade, puis les cloches. On sonne le tocsin. Que se passe-t-il ? Les habitants de Dame Vautier s'arrachent à la table ou au bal, ils sortent. L'eau dans les rues monte, monte encore. Le courant est si fort qu'il emporte les imprudents. L'eau pénètre maintenant dans les maisons, par les portes et les fenêtres. Les habitants épouvantés montent aux étages supérieurs, puis sur le toit. Dans cette dernière occasion, les passions se déchaînent. On se bouscule, on s'écrase, on se bat. Les plus faibles surnagent un moment, puis s'enfoncent en poussant un cri. Les survivants établis sur les toits voient l'eau qui continue de couler, toujours plus rapide, à un niveau toujours plus haut. Quelques-uns glissent et tombent dans le courant. Ceux qui jusque-là avaient gardé leur sang-froid le perdent peu à peu. Polius, le joueur de flûte, pousse des cris de détresse. Sabinius, le magistrat, tremble de peur. Aurelius, le prêtre, songe à sa conduite indigne et reconnaît la main de Dieu. L'eau atteint le niveau des toits. Les derniers rescapés disparaissent. Puis c'est le grand silence. Les clochers émergent un moment, puis leur croix. Tout est fini. Dame Vautier, comme la ville d'Is, s'est englouti sous les eaux. Le lendemain, la femme, réveillée par les cris joyeux de l'enfant, regarde autour d'elle et se souvient. Elle sort de sa cabane et à travers les arbres observe la vallée. À la place de Dame Vautier, cité du plaisir et de la dureté, elle voit un grand lac sur lequel court une brume légère. Elle ne comprend pas. Le vieillard, un bâton de pèlerin à la main, s'approche. « Ma sœur, dit-il doucement, Les gens de cette ville n'ont pas écouté les avertissements de Dieu. Ils ont été punis par un terrible châtiment. Dieu, si plein de miséricorde, leur aurait peut-être pardonné s'ils n'avaient pas montré hier à ton égard tant de cruauté. Ils ont refusé eux-mêmes leur dernière planche de salut. Malheur à qui ne porte pas secours à l'indigent. Malheur à qui reste insensible aux larmes d'un enfant. Puis il disparaît, pendant que le soleil se mire sur les eaux du lac dont on entend près des joncs le léger clapotis. La femme, dès lors, vécut avec son enfant au bord de ce lac, auquel elle donna le nom de Saint-Point, son protecteur. La cabane de l'ermite devint quelques années plus tard une petite chapelle et des villages nouveaux s'établirent autour d'elle. L'un d'eux, celui de Malbuisson, réputé pour son cadre agréable, devait prendre à l'époque moderne une importance croissante. Quant au lac, il fut longtemps considéré comme un lieu de mystère. Des pêcheurs racontaient que leurs filets s'étaient accrochés aux croix des cloches de la ville engloutie. D'autres affirmaient avoir vu le soir des ombres étranges et de blancs fantômes errer sur les eaux. Et surtout, dans la nuit qui suivait la Toussaint, on pouvait entendre nettement, montant du fond du lac pour rappeler aux hommes le châtiment du ciel, le glas sonné par les cloches de la cité maudite. Le lac de Saint-Point, contes et légendes de Franche-Comté, par Jean de Frane.
Nous arrivons au terme de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Allumeurs de Réverbère. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur le site internet allumeurs-de-reverbère.fr ou sur les réseaux sociaux. Cette émission a été réalisée par Myriam Samour avec la participation d'Anne-Laure, habillage musical par Happy London Call. Nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine.